Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous avons commencé l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous avons constaté que les sept églises qui sont mentionnées dans ce livre ne pouvaient pas être contemporaines et qu'en fait, elles étaient les étapes successives de la seule et véritable église bâtie par le Christ. L'église doit connaître sept époques, chacune amenant des attitudes différentes selon les circonstances, les événements et surtout le zèle de ses membres. Au moment où l'apôtre Jean a toutes ses visions, il est le dernier des douze. Les onze autres apôtres sont décédés. Paul est mort aussi. Jean est un homme âgé. Les lettres adressées aux sept églises contiennent des reproches mais aussi des encouragements. Chacune de ces lettres débute par une description du Christ et elle se termine par une promesse faite aux membres qui persévéreront et qui vaincront. Voyons rapidement pour chaque époque la description du Christ et cette promesse faite aux fidèles. À Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. L'arbre de vie est le Saint-Esprit, cette puissance qui ressuscitera tous les morts en Christ lors de la première résurrection. À Smyrne, Jésus dit, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Le premier et le dernier est celui qui commence et qui finit. C'est le Créateur. Celui qui vaincra jusqu'à la persécution, jusqu'à la mort, ne connaîtra pas la seconde mort, la mort définitive dans les temps de feu. Ce message confirme que l'homme ne possède pas une âme immortelle, comme je vous l'ai expliqué au cours de diverses émissions. Il est dit à Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette épée est la parole de Dieu. La manne cachée est le Christ. Il est le pain vivant, le pain de vie. Quant au caillou blanc, c'est une sorte de laissez-passer donnant accès au banquet païen. Il s'agit de la tessere qui fut remplacée plus tard par un jeton de métal ou d'ivoire. De nos jours, nous utilisons un ticket d'entrée ou une carte d'invitation. Celui qui recevra ce caillou y verra un nom nouveau. Il semblerait que Dieu changera le nom de ses véritables disciples, tout comme il l'a fait pour Abraham, Jacob, Simon, etc. Voici ce qui est dit à Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Cette description du Christ figure déjà dans le premier chapitre. Les nations seront sur la terre, puisqu'il faudra les paître avec une verge de fer, c'est-à-dire avec la puissance et l'autorité que Dieu donnera à ceux qui auront vaincu. La rébellion de ces nations devra être brisée, mais cela se fera facilement, aussi aisément que l'on brise un vase d'argile. Apocalypse 22, verset 16, nous révèle que l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Ceux qui vaincront éclaireront le monde. Ils montreront aux gens la voie à suivre. L'étoile du matin est cette lumière qui luit dans les ténèbres et qui voit arriver l'aube. À Sardes, il est dit, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Celui qui a les sept esprits et les sept étoiles est tout simplement le Christ, comme nous pouvons le lire au premier chapitre de ce livre. Les vêtements blancs, dont le vainqueur sera revêtu, sont symboles de justice. Le livre de vie, où son nom ne sera pas effacé, est celui dans lequel Dieu inscrit le nom de tous ceux qui font une alliance avec lui, ceux qui promettent de faire toute sa volonté. Remarquez que Dieu se réserve le droit d'effacer le nom de ceux qui ne respecteraient pas leur alliance jusqu'au bout. À Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Le Saint, le véritable, c'est bien entendu Jésus-Christ. Il a la clé de David, car il s'assiera sur le trône de David à son retour. Dieu le Père et Jésus sont le temple conformément à Apocalypse 21, verset 22. Les véritables chrétiens ressusciteront pour devenir la colonne et l'appui de la vérité, tout comme Jacques, Céphas et Jean le furent. Enfin, nous en arrivons à l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. L'expression « le commencement de la création » est traduit du grec « arché », qui signifie « commencement » ou « origine ». Selon de nombreux lexiques, ce mot peut avoir un sens actif, comme « le commenceur », celui qui commence, ou l'auteur de la création. Ce mot n'a pas son équivalent dans la langue française. Rappelez-vous que dans son évangile, en parlant du Christ ou de la parole, Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » Ce passage indique clairement qu'au commencement, le Christ, la parole, était présent. Il est donc bien le commenceur de toutes choses, c'est lui l'Éternel de l'Ancien Testament. Celui qui vaincra, au cours de cette dernière époque, a la promesse de s'asseoir sur le trône du Christ, qui, lui, sera alors devenu le roi des rois. Nous venons de voir les promesses faites aux sept églises, qui doivent se succéder depuis la Pentecôte en l'an 31 de notre ère jusqu'au retour de notre Sauveur. L'Église d'Éphèse est l'époque des premiers apôtres. Elle est celle qu'a perpétuée l'apôtre Jean. Elle ira même un peu plus loin dans le temps. À cette époque des apôtres, les gens considéraient l'Église comme une secte. Lisons ce que Paul dit au gouverneur Félix. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Dans ce passage, le mot « secte » est traduit de « hérésis », qui signifie « hérésie ». Une hérésie est en contradiction avec la manière de penser de la majorité, bien que cette manière de penser du plus grand nombre n'est pas toujours la vérité. C'est une doctrine contraire à l'orthodoxie au sein d'une religion établie. C'est ce qui heurte les opinions considérées comme justes et raisonnables. L'orthodoxie est l'ensemble des doctrines considérées comme vraies par la fraction dominante. C'est ce qui est enseigné officiellement, c'est ce qui est considéré par la majorité comme la seule vérité. Parce que cette façon de vivre de Paul et son enseignement n'étaient pas en conformité avec ce que croyait la majorité de l'époque, Paul était accusé de faire partie d'une secte, d'une église hérétique, et tous ceux qui vécurent comme Paul reçurent un nom. Lisons-le. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Le Christ reproche à cette époque d'avoir abandonné son premier amour. Son zèle déclinait, elle s'autorisait des compromis avec la parole de Dieu, elle déclinait spirituellement. Il lui conseille de s'en repentir, faute de quoi il ôtera son chandelier de sa place. C'est ce qui s'est passé lorsque le siège central, qui se trouvait à Jérusalem, fut déplacé et se retrouva à Éphèse. C'est là que l'apôtre Jean mourut, après son exil sur l'île de Patmos. Cette lettre se termine, comme c'est le cas pour toutes les autres, par cette petite phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque message est donc un message pour toutes les époques, et nous avons une grande leçon à tirer des reproches que le Christ adresse à son Église. Elle abandonne son premier amour. Elle tolère que de fausses doctrines la pénètrent et perturbent la vérité, l'enseignement de la parole de Dieu. Elle manque de zèle. Ses œuvres ne sont pas parfaites. Et au temps de la fin, parce qu'elle est tiède, Dieu déclare être sur le point de la vomir. L'Église de Dieu, ce petit troupeau de brebis fidèles, a survécu à toutes les persécutions. Bien souvent, sous la persécution, elle a été obligée de s'enfuir, comme le Christ le lui avait conseillé. Les membres de l'Église se virent obligés d'émigrer, et on trouve leurs traces ensuite dans le nord de l'Italie, en France, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et pour finir aux États-Unis. Il m'est impossible en quelques minutes de vous retracer toute l'histoire, pas plus que les diverses pérégrinations de la véritable Église de Dieu au travers du monde et des siècles. Cette Église a toujours su qu'elle devait observer la loi de Dieu, qui comprend l'observance du jour de repos le samedi et non le dimanche. Elle observe les fêtes annuelles de l'Éternel et non les fêtes païennes auxquelles on a donné une étiquette chrétienne comme la Noël, l'Assomption, la Toussaint, etc., dont il n'est même pas question dans la Bible. Elle observe la Pâque et non pas les Pâques qui ne sont pas bibliques non plus. Elle sait que la Trinité n'est pas mentionnée une seule fois dans les Écritures et que le Saint-Esprit est tout simplement la puissance de Dieu. C'est la pensée du Dieu vivant qu'il ne communique qu'à ceux qui lui obéissent. En résumé, elle vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle se soumet à Dieu sans interpréter sa parole. La semaine prochaine, je vous expliquerai les événements qui précéderont le jour du Seigneur, qui est le jour de la grande colère de Dieu.